La santé à venir.
À venir.
Professeur Didier pour Radio Shalom Bourgogne. Merci d'écouter Radio Shalom Bourgogne 97.1 et ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes en compagnie de Corinne Grand-Vincent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de Sensoridis, une association francophone de patients souffrant d'une dysfonction proprioceptive. Vous étiez déjà venue pour en parler sur notre antenne. On refera dans un instant un point justement sur cette association. Et puis également avec nous, vous le connaissez évidemment sur notre antenne, le professeur Jean-Pierre Didier, professeur émérite de médecine physique et réadaptation. Bonjour.
Bonjour.
Et on est ici pour parler essentiellement, vous présenter une journée de conférence en accès libre qui aura lieu le 6 juin 2024. Les thèmes porteront sur la sensorimotricité, la perception, l'action et les apprentissages. Ça sera à la fac des sciences du sport à l'Amphimieux C. On en parlera en fin d'émission. Première question déjà, qu'est-ce que c'est cette association Sensoridis, Madame Grand-Vincent ? Comment est-ce qu'elle est née ?
Alors déjà, je voudrais vous remercier de m'inviter et de me donner la parole. Donc Sensoridis, c'est une association de patients et de familles qu'on a créée en 2018 parce qu'on était plusieurs familles à avoir eu des enfants dits 10 hein, qui avaient des difficultés à l'école. Alors certains dyslexiques, d'autres dyspraxiques, d'autres TDAH. Et nos enfants, en fait, résistaient aux rééducations classiques et n'évoluaient pas. Et on a entendu parler de la dysfonction proprioceptive, de la rééducation proprioceptive, qui est encore une voie de recherche, qui est encore contestée, mais qui, ma foi, semble avoir des résultats chez certains enfants. Et donc, moi, j'avais un fils qui avait vraiment d'importantes difficultés à l'école. Hein. On a fait les rééducations classiques, orthophonie, ergothérapie, orthopsie, kinésithérapie. Et on ne va pas dire que ça ne fonctionnait pas, mais ça ne tenait jamais, en fait. Et mon fils progressait, puis tout d'un coup, ça rechutait et on n'avançait pas. Et donc, on a décidé de se lancer dans cette rééducation nouvelle, enfin, qui n'est plus si nouvelle que ça, mais qui n'est pas encore reconnue, et dont une grande partie de la recherche se fait justement à Dijon. Donc, on a eu cette chance-là d'être ici. Et donc, nous avons rencontré le docteur Kersia, qui a pris en charge notre fils. Et notre fils, qui avait tellement de difficultés scolaires, et pas uniquement scolaires, hein, puisqu'il souffrait aussi d'encoprésie, d'hypersensibilité au son, il bégayait. Enfin, voilà, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Il s'est mis à progresser petit à petit. Et aujourd'hui, il a 20 ans et il fonctionne tout à fait normalement. Il termine sa troisième année de BUT d'informatique et il va maintenant faire un master en alternance. Et tout fonctionne normalement pour lui. Donc avec d'autres familles qui ont vu aussi dont certaines m'ont dit que ça avait changé les perspectives d'avenir de leurs enfants, on a décidé de s'unir entre familles et de monter cette association pour faire connaître, pour aider aussi les familles qui s'engagent dans cette rééducation et aussi pour soutenir la recherche et les chercheurs qui sont encore très contestés. Et on a pensé que le moment était venu pour les familles de s'engager un petit peu aux côtés de la recherche pour qu'on essaye d'avancer tous ensemble.
Ben merci beaucoup, madame, de nous donner de votre temps pour parler de cette question, qui est une question en effet très importante et qui intéresse beaucoup de parents, même si on peut considérer qu'il y a deux types de dyslexie ou de dys en général. Un type qui correspond à un type acquis après une lésion, un traumatisme cérébral ou un accident vasculaire cérébral, et puis d'autre part, des dys constitutionnels, donc qui existent dès la naissance. Et dans ce cadre-là, peut-être qu'on verra surtout ce type de dys, pour que nos auditeurs, auditrices comprennent bien de quoi il s'agit. D'une part, à votre avis, qu'est-ce que c'est qu'un dys ?
Un dys, ça veut dire qu'il dysfonctionne quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Alors justement, ce n'est pas une lésion. Hein. S'il y a une lésion, on n'est plus dans le 10.
Hein. C'est ça.
Voilà. 10, c'est ça ne fonctionne pas bien.
Donc c'est un mauvais fonctionnement.
Voilà.
Et votre association, c'est un mauvais fonctionnement qui intéresse la proprioception.
Oui.
Donc est-ce que vous avez quelques éléments qui nous permettent de mieux saisir ce qu'est la proprioception ?
Alors la proprioception, c'est un sens qui est très mal connu et qui est pourtant essentiel, puisque c'est le sens qui nous permet d'avoir conscience de la position de notre corps dans l'espace sans avoir à le regarder. En fait, on peut fermer les yeux et toucher son nez sans problème, on y arrive. Parce qu'en fait, on a dans tout notre corps, et particulièrement dans nos muscles, plein de petits capteurs qui informent notre cerveau en permanence de la position, de l'état de tension de nos muscles et donc de la position de nos membres dans l'espace.
Alors, un certain nombre de personnes peuvent se poser la question de savoir comment se fait-il que si on a un trouble de la perception de notre schéma corporel, en quelque sorte, tel que vous l'expliquez, comment se fait-il que ce trouble retentisse en s'exprimant par des troubles du langage?
Alors, c'est très vaste et très complexe. voilà, je ne vais pas rentrer dans la théorie des neurones miroirs pour l'apprentissage du langage, parce que là, on irait trop loin. Mais la proprioception a un rôle important dans l'intégration multisensorielle, puisqu'en fait, comme elle permet à notre cerveau de savoir comment est positionné notre corps dans l'espace, elle lui permet de connaître la position de nos différents organes sensoriels à tout moment. Comment sont positionnés nos yeux, notre tête, nos oreilles, et pour pouvoir les diriger correctement en fonction de leur stimuli. Et il est très important pour le cerveau de localiser les informations sensorielles dans l'espace, parce qu'en fait, il faut savoir que même si notre cerveau reçoit toutes les informations de nos sens, toutes n'arrivent pas au niveau de notre conscience. Par exemple, en ce moment, vous allez sentir le poids des vêtements sur votre corps. Jusqu'à présent, vous ne les aviez pas sentis parce que vous n'y aviez pas prêté attention. Et donc, notre cerveau trie en permanence les informations qui parviennent à notre conscience pour ne garder que celles qui sont utiles à l'action en cours envisagée. Et donc, évidemment, il est bien évident que pour sélectionner correctement les informations qui sont utiles à l'action en cours, il faut qu'il soit capable de les localiser correctement dans l'espace. Et ça, c'est la proprioception qui va lui permettre ça.
Alors, votre explication est très claire. Je me permets peut-être de vous donner un exemple qui pourrait l'exprimer de façon simple. Ne m'en voyez pas si je l'ajoute de façon un peu simpliste. Lorsqu'on est dans un train et à l'arrêt, et qu'on est en train de lire un livre, un journal, l'attention est portée sur le livre, sur le journal, et ni les oreilles, par l'ouïe, ni par les yeux, on a une information venant de l'extérieur qui nous trouble. S'il se trouve que le train qui est à côté de vous, que votre propre train avance, alors on va mobiliser les yeux pour voir ce qui se passe. Et c'est-à-dire alors qu'on va replacer notre schéma corporel dans l'ensemble de l'environnement. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, la proprioception joue un rôle essentiel parce que c'est lui dont va dépendre l'activité de tous les autres sens.
Tous les autres sens, leur bon fonctionnement.
C'est bien ça.
Voilà, le bon fonctionnement des autres sens. Et le professeur Jean-Pierre Roll, qui nous a malheureusement quittés il n'y a pas longtemps, qui est un grand chercheur français qui a consacré sa vie à la recherche sur la proprioception, disait de la proprioception qu'elle est le sens premier, le sens qui donne un sens aux autres sens. Et si la proprioception ne fonctionne pas bien, eh bien, en fait, les autres sens ne vont pas non plus... Non pas qu'ils ne donnent pas les bonnes informations, mais le cerveau ne va pas pouvoir les traiter de manière correcte.
Ce qui même veut dire que, quelque part, le cerveau recevant toutes ces informations, si l'information de la proprioception est perturbée, c'est l'ensemble des autres informations qui vont aussi être perturbées. Et dans ces conditions, un enfant, par exemple, qui se tient mal, avec une proprioception modifiée, peut avoir des troubles du langage parce que son propre cerveau va avoir l'information initiale de la proprioception qui se tient bien, alors qu'en réalité, il se tient mal.
Il se tient mal, oui.
Et dans ces conditions, on peut imaginer alors qu'il va traiter les autres informations d'une façon anormale.
Anormale, beaucoup d'enfants et d'adultes disproprioceptifs, puisqu'on ne cesse pas de l'être quand on grandit, hein, vous diront que parfois, ils ont la sensation de ne pas comprendre ce qu'on leur dit. Ils entendent bien, et moi, ça m'arrivait, hein, puisque je le suis, je disais toujours à mon mari de répéter, et entre-temps, je lui répondais parce que, comme je lui disais toujours, c'est le temps que ça monte au cerveau, en fait, le temps que mon cerveau recolle les morceaux qui lui manquaient, hein. Et donc voilà, ça c'est du vécu, du témoignage personnel. Maintenant, les chercheurs ici à Dijon, ils ont démontré qu'en fait, ces enfants, ils ont des pertes visuelles à l'écoute de sons, en fait. Hein. Ça a été publié. Si vous voulez, je vous ai amené d'ailleurs la publication. Et donc voilà, pour vous montrer que il y a des pertes d'informations sensorielles. Alors notamment quand il y a plusieurs informations qui viennent de nos sens, donc bien là le son. Et donc un enfant à l'école, il faut, quand il apprend à lire, il faut qu'il associe ce qu'il entend et ce qu'il voit. Et s'il y a des perturbations sensorielles, qu'il y a des choses qui disparaissent de sa vue ou qu'il entend mal, il ne va pas pouvoir...
Donc on peut imaginer qu'il y a par exemple des dyslexies phonologiques,
oui,
c'est-à-dire des dyslexies qui sont liées à la mauvaise reconnaissance d'un son correspondant à une partie du mot ou à un mot entier, mais qu'il puisse y avoir aussi d'autres types de dyslexies, à point de départ optique par exemple.
Oui, les dyslexies, on dit qu'il y a les phonologiques, qu'il y a, comment, j'ai un trou de mémoire, que l'autre qui est plus visuel en fait, et puis la plupart du temps c'est une association des deux. Et en fait quand on a compris la dysproprioception, quand la dyslexie est d'origine proprioceptive, eh ben on comprend que ça peut être où le cerveau est mal informé de la position de l'œil dans l'orbite, ou effectivement c'est des pertes d'informations auditives. Enfin, on comprend qu'il puisse y avoir les deux, que l'apprentissage de la lecture est compliqué. Et à cela s'ajoute ce qu'on est en train de découvrir du rôle de la proprioception sur la respiration pendant le sommeil. Et on sait aujourd'hui que le sommeil est très important pour consolider les apprentissages de la journée. Et donc, en fait, les enfants qui ont une dysproprioception, ils ont le diaphragme qui ne fonctionne pas bien, le muscle de la respiration. Et donc, ça va provoquer des micro-pauses respiratoires pendant le sommeil, notamment la phase de sommeil paradoxal qui est très importante pour la mémorisation des procédures. Et donc, le peu qu'ils auront réussi à prendre la journée, eh bien, ils ne vont pas réussir à le mémoriser pendant la nuit à cause de ces troubles du sommeil. Et là, on vient de faire une étude qui va être publiée et dont on va justement parler à la journée.
À la Donc, on peut retenir qu'il y a des tas de dys possibles, dont la dyslexie. Il y a une dyscalculie, une dysgraphie, une dysorthographie qui sont différents. Mais tous sont caractérisés par le fait qu'au départ, il y a un dys de la proprioception. Voilà. Est-ce qu'on peut résumer les choses comme
voilà, ça? Voilà, la proprioception dysfonctionne, voilà.
Bien.
Et est-ce qu'il y aurait, j'ai une question, parce que quand on a des jeunes enfants qui sont particulièrement dans l'apprentissage peut-être de la marche, et puis après pour faire par exemple ses lacets, couper sa viande, est-ce que quand on est parent, parfois on peut peut-être se dire tiens, qu'est-ce qui se passe? Ça a des signes avant-coureurs par exemple?
Alors il peut y avoir des signes avant-coureurs, mais ils ne vont pas être tous les mêmes pour tous les enfants. C'est ça qui est un peu difficile avec la dysproprioception, c'est qu'en fait, le cerveau, il va compenser pendant un moment les mauvaises informations. Et puis, à un moment donné, il y a trop d'erreurs et il décompense. Et tous les enfants ne vont pas décompenser de la même manière. Et c'est vrai qu'il y a des enfants qui vont être maladroits et il y en a d'autres qui vont avoir d'autres signes, en fait. Donc, ce n'est pas toujours simple à détecter. Après, c'est les signes des 10 classiques. Moi, je vois mon fils, ce qui nous avait alerté en maternelle, c'était... Alors, il y avait plein de petites choses, mais comme c'est un enfant très intelligent qui compensait, la maîtresse ne s'inquiétait pas, mais il n'arrivait déjà pas à dénombrer. Vous savez, faire dénombrer 5 choses dans une collection, déjà, c'était un signe, il n'arrivait pas à dénombrer. Il dessinait ses cercles toujours à l'envers, il n'arrivait pas à se dessiner dans le bon sens, et puis il ne se repérait pas du tout dans le temps. Cet enfant, il nous disait encore, juste avant de rentrer au CP, est-ce qu'aujourd'hui, c'est demain ? Et mon mari me disait, mais les autres, ils nous ont jamais fait ça, parce qu'il a 2 grands frères qui fonctionnaient tout à fait normalement. Et c'est vrai que, voilà, dès la maternelle, il y avait plein de petites choses, en fait. J'allais dire même plutôt encore dans son carnet de santé, à chaque fois, vous savez, le médecin, quand il doit contrôler, il y avait une petite chose, n'empile pas 3 cubes. Mais en fait, comme à côté de ça, c'était un enfant qui était très dégourdi, il était très dégourdi. En fait, la médecin n'était pas inquiète. Elle disait, voilà, il ne peut pas tout faire en même temps. Puis, à côté de ça, comme il avait 2 frères, elle disait, oh, il est un petit peu paresseux parce que c'est le petit dernier. Alors qu'en fait, depuis toujours, il y avait des petits signes à chaque fois, en fait.
Alors, le médecin n'était pas inquiet. Vous l'étiez peut-être davantage. Mais est-ce que lui-même était inquiet? Parce qu'on peut imaginer facilement que si parmi tous les sens, celui de la proprioception est le sens dominant, tous les autres dépendant de lui. Si ce sens de la proprioception est perturbé, les autres vont l'être aussi. C'est-à-dire que le cerveau de l'enfant en question va devoir mettre en cohérence des informations qui apparemment sont contradictoires. Est-ce que cette obligation va faire en sorte qu'ils vont avoir des perturbations dans l'apprentissage, qu'ils vont devenir éventuellement même anxieux, en ayant le sentiment qu'ils n'arrivent pas à gérer la situation présente.
Alors un peu plus tard, hein, mais voilà, quand ils arrivent en primaire et que là les choses se compliquent, et je pense que l'enfant, lui, comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein, parce que moi, il en arrivait même à, quand je lui disais, voilà, c'est pas grave, tu t'es trompé, même à dire, vous savez, les petits jeux, les perles à mâche, je ne sais pas si vous connaissez, où on met des petites perles, et il essayait de reproduire, et il se trompait souvent, en plus, il arrêtait vite, je me disais, il n'est pas très courageux par rapport à ses frères, en fait, j'avais pas réalisé à quel point c'était coûteux pour lui. Et en fait, il faisait des erreurs et quand je lui disais, il se mettait des claques lui-même.
Voilà, c'est ça.
Et voilà, et je voyais cet enfant qui souffrait. Et pareil, il me disait des choses, il me disait, à l'école, la maîtresse, elle, vous savez, elle mettait un point pour que les enfants sachent où écrire. Et il disait, parfois j'arrive à l'école, je ne vois pas le point. Et puis il dit, tout d'un coup, il apparaît dans la matinée. Et il avait plein de petites choses comme ça qu'il me disait. Je me disais, il y a un problème au niveau visuel. Et on avait vu l'ophtalmo, il avait dit, non, il voit parfaitement bien. Et cet enfant savait, vous voyez, il sentait, lui, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et nous, personne ne comprenait autour de lui. Et c'est vrai qu'il commençait à être lui-même maltraitant avec lui-même.
Oui.
Et je dois même dire que nous, à l'époque, avant de comprendre ce qui se passait, en tant que parents, on est aussi un peu maltraitants. Parce que quand il nous ramenait, qu'il s'est écrit n'importe comment, qu'il commençait à écrire là, puis que la marche finissait là. Enfin, vous voyez, il écrivait. Et on lui disait, mais ce n'est pas possible, mais si tu le fais exprès... Et voilà, en tant que parent, tant qu'on n'a pas compris, je pense que l'enseignant aussi peut être maltraitant, alors que ce sont des enfants qui font des efforts énormes, en fait.
Mais vous l'avez très bien observé, et il apparaît alors clairement dans ces conditions que cet enfant ne doit pas être considéré comme n'étant pas intelligent.
Ah non.
Car il était parfaitement intelligent, se rendait compte de la situation.
Ah oui.
Alors que pendant longtemps, les 10 ont été considérés comme un manque d'intelligence, ce qui est une erreur fondamentale.
Oui, oui. Et sa maîtresse, heureusement, alors elle nous connaissait, elle a vu ses grands frères, donc elle m'avait dit, moi je connais la famille, et elle me disait, je sens que cet enfant, il est intelligent. Elle me disait, il bloque, il est très intelligent, elle me disait, il bloque sur des choses, mais je sens bien qu'il est intelligent.
Alors écoutez, merci beaucoup à Mme Gros-Vincent, déjà je crois que maintenant on a bien saisi. Si éventuellement certains de nos auditeurs ou auditrices avaient des questions à poser, ben, qu'elles n'hésitent pas à le faire sur notre site, on y répondra, du moins on essaiera. Dans un deuxième temps, il me paraîtrait important dans notre interview que vous nous précisiez les données épidémiologiques. C'est-à-dire, est-ce que ces 10 sont finalement très fréquents ou moins fréquents? Est-ce qu'on les découvre souvent ou pas souvent? Est-ce qu'il faut les rechercher? Sur quoi on les recherche? Et ces données épidémiologiques seraient sûrement intéressantes pour peut-être apaiser les craintes d'un certain nombre de parents en disant « mais mon fils ou ma fille, c'est un pourcentage tellement faible de troubles que ça va intéresser personne », alors qu'au contraire, il semble que ce soit une incidence assez grande.
Voilà, je pense que c'est une incidence assez grande. Alors aujourd'hui, on est au début de la recherche sur tout ça, donc on est au début d'une aventure, comme je dis toujours. Donc il n'y a pas encore de données formelles mais ça pourrait, la dysproprioception pourrait représenter à peu près 10% de la population à des degrés divers.
Ce qui est beaucoup.
C'est un sens qui ne fonctionne pas bien comme les autres sens, en fait. Hein. Et alors, c'est vrai que si c'est juste, si c'est léger, il n'y a pas d'impact. Et puis, quand c'est vraiment une dysproprioception sévère, là, ça peut avoir un impact majeur jusqu'à aller à des apnées du sommeil. Enfin, voilà, hein, ça peut avoir un impact extrêmement majeur sur la vie de l'enfant. Et malheureusement, on va chercher un tas de choses sans penser à s'intéresser à la proprioception.
Alors souvent, on constate que les enseignants qui se trouvent en place d'enfants porteurs de 10, en particulier de dyslexie, ont plutôt tendance à les considérer comme des enfants entre guillemets handicapés et qui sont alors dirigés vers des centres de scolarisation approprié. Est-ce que c'est une situation que vous connaissez à travers votre association? Est-ce que cette absence ou cette méconnaissance relative des 10 perdure?
Je pense qu'au niveau des 10 en général, hein, je pense que les choses ont quand même bien évolué les dernières années. Je pense que les enseignants connaissent de plus en plus. Alors après, parfois, ça va être une question de personne aussi. Hein, plus facile de dire cet enfant, il doit aller... dans une école spécialisée, mais ça se fait de moins en moins. Enfin, je pense que c'est de plus en plus admis qu'il faut les aider, qu'il faut mettre en place des choses, parfois avec des aides humaines. Hein, et c'est souvent un vrai parcours du combattant pour les familles, même avec la MDPH, hein, ou parfois, moi, j'ai dans mon association des gens qui doivent faire des recours, hein, pour faire valoir leurs droits. Enfin, c'est vraiment... Faut se battre. Ça reste encore difficile. On a progressé, ça reste encore difficile. Maintenant, pour ce qui est de la disproprioception pure, ben, vous comprenez que c'est encore plus difficile parce que ce n'est même pas encore reconnu. Donc, il faut déjà avoir démontré les 10 autres de l'enfant, hein, qui ne sont que des conséquences. Mais disons qu'il faut déjà avoir fait ces diagnostics-là pour pouvoir obtenir des aides à l'école. Et puis, la disproprioception, ça va être plus dans la prise en charge, en fait.
Alors, est-ce qu'en pratique, des déficits au niveau des apprentissages, en général, peuvent être pris en compte comme des défauts d'apprentissage et non pas comme étant le mode d'expression d'indice?
Alors, en fait, je pense que si le trouble est important et perdure, il faut quand même se poser la question. Je pense que les enseignants sont quand même assez bien sensibilisés. Enfin, eux, ils voient un tas d'enfants. Et en fait, enfin, moi, je vois que c'est l'enseignante qui est revenue à plusieurs fois parce qu'elle me disait, il y a un problème. Alors qu'à l'époque, justement, j'ai eu un peu un parcours du combattant parce qu'en fait, les démarches médicales qu'on avait entamées au début nous disaient, il n'y a pas grand-chose parce qu'en fait, notre fils compensait énormément durant les bilans. Et la maîtresse, elle me disait, mais non, ce n'est pas possible. Et les enseignants, ils voient quand même bien la différence par rapport aux autres enfants. Et je pense que quand un enseignant vous dit alerte, par rapport aux autres, il y a quelque chose, je pense qu'il faut les écouter.
Est-ce que votre fils a marché tardivement?
Non, il a marché. Alors par contre, il a sauté les tables du quatre pattes, c'est pas très bien d'ailleurs. Il n'a pas marché tardivement, par contre, il a parlé tardivement. Il s'exprimait énormément par geste, on voyait que c'était un gamin qui avait envie de s'exprimer.
Jouer avec des jouets, par exemple les Lego, est-ce qu'il avait de la difficulté à la manipuler?
Alors, quand il était petit, justement, contrairement à ses frères, pareil, c'était une chose, je me disais, il ne joue pas comme les autres, c'est tout, alors que je pense que c'était déjà une alerte. Hein. Voilà. Les jeux de société comptaient, c'était... il n'y arrivait pas, quoi. Même quand il a appris à compter, il se trompait toujours. Alors, du coup, il préférait jouer avec les petits chevaux. Enfin, vous voyez, il préférait jouer autrement que le jeu de société en lui-même. Il jouait avec les pions, il y avait un tas de choses comme ça.
De la motricité, il n'y avait pas de trouble pour associer des Lego, pour...
Alors, il n'aimait pas tous ces jeux-là. Ouais. Enfin, à la fois, il aimait et il se lassait vite, comme je vous ai dit, les petites perles à mailles, il essayait, hein, parce qu'il avait envie de faire... Mais il abandonnait
ça, c'est
vite.
C'est une dyspraxie.
Voilà, et puis les jeux aussi à mettre des lacets quand il est petit. Vous voyez, tout ça, il ne faisait pas comme les autres. Mais bon, on se dit, il n'aime pas, quoi. On ne se pense pas qu'il y a... Puis il aimait mieux jouer quand il était petit, les Lego, à renverser les boîtes, il écoutait le bruit qu'il faisait en tombant, plutôt que de construire. Oui. Mais par contre, après, bizarrement, et c'est ça que parfois ils sont surprenants, ces enfants-là, parce qu'il aimait ça, les Lego, il aimait encore assez bien. Donc il faisait des gros efforts et il aimait encore bien faire des petites choses en Lego. Ils peuvent être surprenants quand ils aiment faire quelque chose, en fait.
Alors, est-ce qu'on peut passer à un thème suivant? C'est le rôle des parents. Comment les parents sont amenés à se poser des questions sur l'existence éventuelle d'indices?
Alors voilà, il y a tous ces petits signes, et puis il y a ce qui vient de l'extérieur, parce que quand on est parent, c'est pas facile d'accepter. Hein, alors moi, voilà, il y a eu une grossesse très difficile, puis finalement, à la fin... Il était né, il était beau, il était parfait, donc je ne voulais plus entendre qu'il y avait des soucis. Et donc, je pense que j'étais un peu dans le déni au début. Hein, quand à maternelle, on m'avait déjà dit qu'il y avait des petites choses, et bon, je ne voulais pas entendre. La généraliste me rassurait en me disant, bon, c'est le troisième de la fratrie. Et puis après, voilà, quand on est arrivé en primaire, je vous ai dit, voilà, la maîtresse, elle revenait à la charge. Et voilà, au début, je n'étais pas tendre avec elle, hein, parce qu'en plus, on est dans un village où il y avait une école d'un niveau assez élevé. Donc, je disais, c'est le niveau qui est trop élevé. Enfin, vous voyez, hein, c'est dur hein, en tant que parent de se dire « mon enfant a un problème ». Et puis, elle insistait tellement que j'ai fini par aller voir quelqu'un, une pédopsychiatre. Et puis, cette personne-là, parce que Marc aussi, voilà, à cette époque-là, il avait tout rattrapé au niveau du langage. Il s'exprimait très bien. C'était un enfant... très à l'aise, Et elle m'avait dit, pareil, non, votre enfant va bien, c'est l'école qui ne va pas. Et ça m'avait rassurée un temps. Et il y a eu, à l'époque, il y avait les évaluations nationales en fin de CE1.
Oui, oui.
Et ça, pour nous, ça a été vraiment quelque chose, le déclic, parce qu'il y a eu ces évaluations nationales. Et mon gamin, c'est vrai que je le faisais travailler comme un fou. Hein. Enfin voilà, même je le relevais plus tôt le matin, parce que je m'étais bien rendu compte qu'il avait oublié le matin tout ce qu'il avait appris la veille. Donc en fait, il avait une bonne moyenne, puisque dans notre école, il mettait des notes. Hein. Enfin, une bonne moyenne, il avait 12, 13 de moyenne, donc ma foi, il s'en sortait. Mais quand il a eu les évaluations nationales, je me souviens, il avait eu, je crois, 8 sur 40 en français et en maths. Et ma belle-sœur était enseignante dans cette classe-là, et mon mari lui avait posé la question, lui avait dit... qu'est-ce que t'en penses? Puis elle lui avait dit, tu sais, moi j'en ai dans ma classe qui sont pourtant pas brillants, ils ont mieux réussi que ça. Et donc voilà, là ça a été vraiment, à partir de ce moment-là, je me suis plus voilé la face, je me suis dit maintenant, faut chercher. Et donc voilà, j'ai cherché sur Internet et j'ai commencé à avoir, on m'avait parlé quand j'étais petite d'une insuffisance de convergence des yeux en maternelle, et puis on m'en avait plus reparlé après. Et quand j'ai cherché sur Internet un petit peu ce que ça pouvait faire, je me suis dit, mais c'est tout ce qui arrive à Marc, en fait. Alors, j'en ai parlé à cette médecin qui a été pas très gentille avec moi. Hein. En gros, c'était moi qui cherchais un problème où il n'y en avait pas. Ça a été dur. Hein. Quand on est parent, parfois, il faut s'accrocher. Hein. Mm-hmm. Parce que quand on sent que ça ne va pas, mm-hmm. il faut continuer à chercher.
Donc, en parlant un peu contre ma paroisse médicale, oui. Ça veut dire que votre attention a été attirée, que vous avez pris conscience... de ce que vous disait l'enseignante, alors que vous aviez tendance à considérer que votre fils, entre guillemets, vous l'avez considéré comme parfait, mais on est tous comme ça. Hein. Moi-même, j'ai 5 enfants, je les ai tous considérés comme parfaits, ce qui était loin d'être le cas. Donc, vous voulez dire par là que c'est la scolarité ou les enseignants qui vous ont conforté dans vos impressions que vous vouliez mettre du côté du déni pendant un temps.
Voilà, voilà.
Mais ce n'est pas le médecin.
Non, là, c'est pas le médecin.
Alors, là, il y a une question importante. Ça veut dire que dans ces conditions, est-ce que vraiment la formation des médecins dans ce domaine est suffisante pour aider les parents à détecter l'existence de tels troubles?
Je ne pense pas. Je pense que ça représente très peu en fac de médecine. Hein. Donc après, bon, il se trouve que nous, notre médecin est parti, on en a pris une autre. Et cette généraliste-là, elle m'avait dit, moi, j'apprends tout avec vous. Parce qu'elle dit, moi, en fac de médecine, on n'a pratiquement pas entendu parler. Et c'est vrai
donc
que...
Donc là, c'est quand même un point important pour l'avenir, où il faudrait qu'il y ait une formation particulièrement attentive qui soit faite des futurs médecins pour dépister ce type de choses suffisamment tôt pour qu'ils soient pris en compte, voilà. Pour que les enfants soient pris en compte dans de bonnes conditions et que la remise sur pied, si on peut dire... se fasse le plus rapidement possible.
Le plus rapidement possible pour qu'il ne souffre pas trop, parce qu'en fait...
Oui, puisqu'on en revient à l'anxiété qu'on avait évoquée tout à l'heure.
Voilà, parce qu'enfin, une fois, vous voyez, en maternelle, ça va encore, même s'ils ont des petites difficultés, mais une fois qu'ils arrivent en primaire, hein, ça devient très compliqué pour l'estime de soi, le regard des autres. Moi, je vois, on passait, je ne sais pas, une demi-heure le soir à préparer la dictée, l'autodictée, et ils rentraient avec zéro... Et en pleurant, et même moi, à la fin, je me disais, finalement, pourquoi lui faire passer autant de temps à travailler si c'est pour avoir zéro à chaque fois, enfin, et c'est vrai que voilà, si on pouvait intervenir le plus tôt possible pour éviter qu'il souffre
trop... Donc
là,
c'est un message fort.
Que l'estime de soi, voilà, ne soit pas trop abîmée, c'est...
Et qui va à l'encontre de ma paroisse, donc vous voyez.
Oui, oui, non mais...
Je le prends en compte.
et peut-être aussi que les... Parfois, alors pas vos confrères, Monsieur Didier, mais parfois les enseignants... qui peuvent, alors j'imagine que ça a beaucoup changé aussi avec les enseignants de maintenant, mais qui peuvent être dépassés avec des trop grandes classes, par exemple, quand on se retrouve avec 30 enfants, je sais, on parlait de 10% de la population, donc ça voudrait dire 3 enfants sur une classe de 30 qui souffrent de difficultés semblables. Ça peut être compliqué aussi, j'imagine, pour le corps enseignant et pour l'équipe pédagogique.
C'est
comment,
sûr.
Comment faire?
Alors c'est vrai que voilà, si on compte tous les 10, sans parler de dysproprioception, si vous mettez les dyslexies, les dyscalculies, les TDAH, les autismes, c'est vrai que ça, dans une classe, ça peut représenter du monde. Et puis à côté de ça, les enfants qui ont des difficultés sociales
bien sûr,
ou les enfants qui ont des difficultés familiales. Et c'est vrai que pour les, pour les enseignants, ce n'est pas forcément facile. Hein, c'est...
Vous parlez des TDAH, c'est les enfants hyperactifs.
Voilà, oui, très trop difficile de l'attention avec hyperactivité, voilà. Et dont s'occupe plus l'association Inestimable, justement, que vous avez reçue.
Alors, maintenant, si on envisage, Madame Grand-Vincent, l'avenir, on a vu que ça avait mis du temps pour qu'on arrive à prendre en compte ce type de troubles. Ils avaient été définis depuis très longtemps déjà. Hein. On a parlé des dysfonctionnements dans le domaine moteur depuis très longtemps, mais c'était pris en compte de façon plus récente avec les travaux de Jean Piaget, puis avec les recherches qui ont été faites. Vous parliez de Ramus tout à l'heure, mais également les activités de ce groupe de recherche que je connais bien, qui est l'unité INSERM, maintenant dirigée par Papa Xantis, alors qu'il était à l'époque, il y a quelques années, dirigé par Thierry Pozzo, avec lequel M. Kersia a fait ses travaux. Donc, si on envisage l'avenir, à votre avis, compte tenu de ce qu'on voit aujourd'hui, avec les progrès technologiques de l'imagerie cérébrale, on a la possibilité de mettre en évidence, en effet, un fonctionnement cérébral des enfants dyslexiques, par exemple, qui n'est pas le même que celui des enfants qui n'ont pas ce trouble. Donc, quand on dit il s'agit d'une anomalie de fonctionnement, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire c'est une maladie qui est liée au fait d'un fonctionnement cérébral qui n'est pas le fonctionnement cérébral habituel?
Alors, en fait,
C'est un problème un peu difficile.
Il y a deux choses. En fait, quel est l'œuf ou la poule? Qu'en fait, vous voyez que c'est un cerveau qui fonctionne différemment. Alors, c'est vrai que dans la vision des troubles dys qui sont conséquences d'un trouble proprioceptif, le cerveau qui fonctionne différemment n'est en fait qu'une conséquence d'un dysfonctionnement sensoriel. Et l'idée, c'est qu'en redonnant une sensorialité correcte, un cerveau qui reçoit les bonnes informations sensorielles, qui peut traiter correctement en corrigeant les troubles respiratoires du sommeil, qui vont ensuite permettre de mémoriser, et bien petit à petit, on va permettre au cerveau de ces enfants qui sont encore très plastiques, puisqu'ils sont tout petits, de recréer les connexions neuronales et de revenir à un fonctionnement normal. Je sais que ça peut choquer, puisque dans le monde des 10, on dit on meurt et on... Enfin, on naît et on meurt 10. Et en fait, dans cette idée-là, qui est très subversive, hein, c'est pour ça qu'il faut se battre un petit peu pour avancer avec ces chercheurs. On dit, eh bien, pour les enfants, en tout cas, dont l'origine du trouble est proprioceptive, on peut tout à fait arriver à corriger, à revenir vers la normalité. Alors, après, tout dépend de l'ampleur du trouble proprioceptif, quelle en est la cause, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui, hein, mais on peut recréer des connexions neuronales et refonctionner normalement. Moi, aujourd'hui, même si ça peut choquer, mon fils, j'estime qu'il n'est plus 10, hein, il fonctionne tout à fait normalement.
Vous avez tout à fait raison, et l'image de l'œuf et de la poule est une belle image, parce qu'on peut dire la proprioception est perturbée, donc on a la dyslexie, mais en réalité, qu'est-ce qui a perturbé la proprioception? Et il y a vraisemblablement des tas de possibilités pour que le sens proprioceptif soit perturbé. Ça peut être aussi bien au niveau des récepteurs, qui captent mal, qui sont mal placés. Ça peut être au niveau des voies qui conduisent l'information. Ça peut être au niveau des centres qui reçoivent les informations, mais également au niveau des centres qui reçoivent l'ensemble de toutes les informations afin de les remettre dans un environnement cohérent. Donc on voit qu'il reste encore beaucoup de travail à faire.
Beaucoup de choses à découvrir. Hein.
Et je pense que ce serait très bien qu'il y ait beaucoup de participants à la conférence que Patrick Kersia va donner bientôt. Vous pouvez peut-être nous rappeler les conditions dans lesquelles ça va être fait?
Alors, c'est le 6 juin, donc elle est ouverte à tous. Alors, c'est une conférence qui a pour thème sensorimotricité, perception, action et apprentissage. Alors, je vais juste ouvrir une petite parenthèse sur le mot sensorimotricité que peu de gens connaissent et comprennent. On connaît plus la motricité, qui est le fait de se mouvoir, d'agir, de bouger. Et en fait, on devrait parler que de sensorimotricité parce qu'en fait, il n'y a pas de mouvement possible sans retour de nos sens, en fait. Si je veux attraper quelque chose devant moi, j'ai ma vue qui me dit où est l'objet que je veux saisir. J'ai tous mes petits capteurs de ma proprioception qui me disent comment est placé mon corps, comment est placé mon bras, comment est placé ma main. Et c'est grâce à ces informations que mon cerveau va pouvoir donner des ordres pour diriger vers ma main, vers l'objet que je veux saisir. Et à tout moment, mes yeux vont lui dire effectivement, ma main se dirige dans la bonne direction. Mes petits capteurs proprioceptifs vont lui dire, oui, ça se passe bien. Et si ça se passe pas bien, il va corriger le mouvement. Donc en fait, la sensorimotricité, c'est le fait de pouvoir bouger grâce à nos sens, en fait, à tous nos sens.
Écoutez, vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus. Et ce sera en termes de conclusion, si vous voulez bien. L'idée que finalement, notre cerveau ne fonctionne pas, comme on l'a dit de temps en temps, à seulement 10% de ses capacités. C'est un neuromythe, parce qu'il faut intégrer, quoi qu'on fasse, l'intervention de la multiplicité de nos capteurs qui nous renseignent en permanence sur l'état de l'environnement, et toutes nos actions sont liées précisément à cet environnement, que ce soit un environnement matériel ou un environnement humain, dont on sait malheureusement aujourd'hui que de temps en temps, il peut être à l'origine d'un certain nombre de drames. Merci beaucoup en tout cas, Madame Grandvincent,
de
nous avoir donné du temps pour consacrer nos réflexions sur ce sujet particulièrement intéressant. Et j'espère, Élie, qu'on aura des retours qui nous permettront peut-être d'éclaircir les choses, voire même d'envisager une émission spécifique sur le thème avec les participants d'équipe INSERM.
Mais avec plaisir.
Ah, ça, ce serait formidable.
Et toutes les descriptions, évidemment, enfin le lien en description, rappelle que c'est le 6 juin, cette conférence à la Fac des sciences du sport à l'Amphimieucet. Je crois que c'est gratuit, mais il faut s'inscrire pour
s'inscrire, voilà, parce que là, il y a un nombre de places limitées. Donc, il faut s'inscrire vite parce que ça part vite. Voilà, et c'est gratuit. Alors, c'est vrai que souvent, quand on est famille, on n'ose pas aller dans des endroits pareils parce que les gens ont toujours un peu peur de ne pas comprendre. Et moi, je dis toujours que on ne comprend pas tout, c'est vrai, mais on en tire toujours quelque chose, on en retire toujours quelque chose. Et c'est toujours intéressant d'entendre et d'écouter des chercheurs. Voilà, de
voir comment fonctionne la recherche. J'espère qu'on en aura convaincu un certain nombre.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.